3 ans et demi, 4 ans que c'était en maturation et ça fait vraiment un an de travail. J'ai vraiment commencé en juin. Dans mon cheminement, j'ai donc rencontré aussi Florence Allard, qui était pour moi important, parce que ça n'a pas toujours été évident. Je travaille sur ce sujet. Pourquoi j'ai choisi de travailler là-dessus? C'est quand j'étais encore en stage, étudiante, on fait des stages en cabinet de médecine générale, j'ai vu un certain nombre de femmes assez ennuyées avec des problèmes liés à leur contraception, qui trouvaient qu'il y avait des saignements, qui ne s'en sentaient pas, et dont une qui a demandé mais je sens que c'est pas bon pour moi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de naturel qui existe? Puis pas de réponse, ni de la médecin avec qui j'étais, ni de moi. Moi j'avais vaguement entendu des choses, je savais qu'il y avait des trucs qui existaient, mais pas moyen de pouvoir répondre parce que dans nos études de médecine, on ne nous en parle pas. Donc juste pour dire que ça ne marche pas, mais en fait quand on cherche, bah si, il y a des choses très intéressantes et qui je pense... on le mérite d'être connu et d'être, que les gens puissent être informés de ça. Alors, je vais commencer mon... Enfin, si vous avez des questions, je vais commencer à présenter mon travail. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Voilà, pour moi c'est aussi une chance de pouvoir présenter ce soir, ça m'aidera pour la soutenance. Voilà. Comment ça marche? Ça, je peux faire avec ça? Non, non, non. pour le mettre en route, il y a un truc F2, non, c'est pas ça? Un truc comme ça.
Pour passer.
Pour que ça se voit.
Pour qu'on le voit. Je sais plus trop ce qu'on a écrit tout à l'heure.
Oui, je crois que c'est un truc comme F2.
Bon,
sinon on fera ça l'année.
Je passe le papier visé. Hein. Bon, si je le retiens, je suis en ligne.
Oui.
Bon. Pour ce travail. J'ai rencontré différentes personnes et là, celui qui m'a vraiment aidé pour aboutir à ce travail, c'est le professeur René Cochard, un médecin de Lyon, qui est professeur de statistique à la CAP de Lyon et qui travaille depuis 30 ans sur le méthode naturel. J'ai vraiment eu une bonne quelqu'un qui m'a vraiment aidé. Puis mon directeur de thèse qui m'a aidé surtout dans le lien avec les médecins pour voir. Le présenter au niveau à d'autres médecins en fait, hein, et en quoi ça va en atterrir pour eux et pour les patients.
Donc là, ce que tu fais, c'est un condensé de ta thèse ou tu as
C'est la présentation de la soutenance. C'est-à-dire que ma
soutenance.
Oui, je vais encore la retravailler.
Oui.
Mais déjà, c'est un.
Tu l'as fait en PowerPoint?
Oui, on est obligé de faire un PowerPoint pour la soutenance. Et ça doit durer 10 minutes. Donc là, je vais prendre plus de temps, je vais plus vous détailler. Mais ce que je vous présente, c'est censé durer 10 minutes. J'ai commencé à le présenter. Hein, le temps qu'on... Donc, dans mon introduction, je suis partie du fait que La planification familiale, c'est quelque chose de très important actuellement pour tout couple, que ce soit dans nos sociétés, dans toute société de par le monde. Le médecin généraliste, c'est souvent des premières personnes à qui on demande de l'aide, plus que les gynécologues, parce que bientôt il y aura plus de moins en moins de gynécologues en France, c'est une décision. On ne forme plus des gynécologues médicaux. Il y aura surtout des gynécologues obstétriciens en hôpital. Donc on demande aux sages-femmes, notamment aux médecins généralistes, de gérer tout problème de la régulation des naissances. Enfin, le problème. La question. Depuis assez récemment, il y a eu des scandales qui sont arrivés, des questions que les femmes se sont posées par rapport aux pilules de 3e et 4e génération, voilà, depuis les années début 2013, et on a assisté à un grand changement en France de ces contraceptions, avec une nette diminution de ces deux types, et du coup une augmentation de tous les autres types de contraception, et aussi une augmentation des méthodes dites naturelles, où finalement il y en a un certain nombre qui décidaient de ne plus prendre aucun contraceptif et qui s'adaptaient en calculant les jours, un petit peu ce que c'était Ogino. Ogino, c'est une méthode ancienne qui date des années 1936 et qui était un peu seulement ce qu'on avait à l'époque, mais qui n'était pas basé scientifiquement. On ne peut pas se baser là-dessus vraiment pour réguler la naissance. Parce qu'un cycle d'une femme n'est en général pas régulier. Donc on ne peut pas se baser sur statistiquement à quel moment avoir une union.
Là, comment on dit OK ?
Donc, il existe. Et la planification familiale naturelle, elle n'est pas très répandue en France. Elle est pas mal répandue en Irlande, en Allemagne aussi. C'est beaucoup plus développé. Dans d'autres pays aussi, au niveau officiellement en Chine, en Inde. Et puis dans d'autres pays d'Afrique, par exemple, où ils ont. C'est plus développé. Donc, je me suis demandé un petit peu pourquoi. Enfin, est-ce que. C'est quelque chose qui existe et en quoi ça peut être intéressant. L'Agence nationale de. En tout cas, dans les recommandations officielles en France, il est recommandé que les médecins expliquent les principes des méthodes naturelles à toute femme et à son conjoint qui viennent pour une demande de contraception. Parce que quand j'en parle, les gens ne sont pas au courant. Moi, je ne suis pas au courant non plus, c'est en cherchant. C'est de 2004.
C'est la Haute Autorité de Santé ?
Ouais. L'ANAES en fait, ANAES 2004, j'ai bien référé.
Ah, c'est l'ANAES.
Et parce que, voilà, ils disent qu'au même titre au même titre que les connaissances sur la fertilité et le cycle physiologique de la reproduction, il est recommandé que les principes généraux des méthodes naturelles soient exposés à toute femme et à son partenaire envisageant l'utilisation de méthodes contraceptives.
Ça, il faut
le faire apparaître. Je l'ai mis en rose.
Alors, est-ce que vous voyez
un peu
ici?
Se rapprocher peut-être du coup.
Donc,
enfin, tout ce que je vous raconte, c'est un peu. Enfin, je veux dire, pas forcément besoin de suivre en fait. Ça va? Vous voyez un petit peu? Vous inquiétez pas si vous voyez pas bien. Il y a encore une place là devant. Si vous voulez vous décaler.
Je peux simplement faire une toute petite
oui.
Petite ajout.
Oui.
Je pense que les méthodes naturelles sont extrêmement. situation. Parce que mais ça fait des années, j'ai un document d'une trentaine de pages du planning familial, une sorte de congrès il y a 15 ans, où il disait que la pilule n'était pas fiable, c'est-à-dire qu'il y avait des grossesses. Moi, je n'y croyais pas, jusqu'au moment où, les dernières années où j'ai exercé, j'ai vu que, effectivement, j'ai eu deux grossesses sous pilule, une sous Adépane, qui est quand même une pilule qui est assez forte, et je n'en croyais pas mes yeux, donc j'ai fait bien les calculs, j'ai demandé à la femme exactement les dates, etc. Et vraiment, elle ne s'était pas trompée, elle l'apprenait bien, et elle a eu une grossesse. Chose qui était inconcevable avant, parce qu'on disait, c'est 99% de bons résultats. Là, ils avaient fait un calcul, ça les avait effrayés, que sur 1000 femmes, 720 prenaient la pilule ou avaient pris la pilule. Donc elles étaient au courant, parce qu'ils disaient, s'il y a tellement de femmes qui, en prenant la pilule, ont des grossesses, c'est qu'elles ne prennent pas la pilule. Donc il faut un petit peu les mettre au courant. Ou c'est qu'elles ne la prennent pas. Donc il faut qu'elles la prennent. Et ils se sont rendus compte que toutes avaient pris la pilule ou qu'elles la prennent. Donc ils se sont rendus compte que la pilule n'était pas fiable. Première chose. Et second problème, ça on en avait parlé la dernière fois. Moi je disais prudemment, la pilule n'a pas fait la preuve de son innocuité, mais peut-être que tu vas en parler. Et puis là, on est en train de découvrir que la pilule est carrément toxique. Il y a quelque chose là qui est assez grave, parce qu'il y a des accidents gravissimes, mortels, au point que Diane 35 a dû mettre dans la petite notice que maman y voit, qu'il y avait des accidents mortels. Donc blablabla, quand on voit ça, on a tout envie. Par embolie pulmonaire, à cause des phlébites, embolie pulmonaire et accident vasculaire secondaire. Voilà, je m'arrête et tu continues.
Merci.
C'est vrai que je n'ai pas beaucoup détaillé cet aspect-là, mais ce n'est pas le sujet de ma thèse, c'est pour ça.
C'est pour ça,
mais en fait, c'est en arrière-plan pour tout le monde, et les médecins aussi.
Ouais, je pense que tout le monde le sait, mais personne ne veut le dire officiellement. Mais que la Haute Autorité de Santé ou que l'ANAES ait conseillé les méthodes naturelles, alors qu'avant, tout le monde riait en disant c'est le meilleur moyen pour la fortune, etc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière.
Ouais. C'est sûr.
C'est très intéressant.
Donc on était à l'introduction, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Au tout début, je disais qu'il y a un certain nombre de couples qui éprouvent des difficultés dans leur choix contraceptif. Enfin, moi, de mon expérience en médecine générale, en cabinet, c'est quand même assez fréquent. Enfin, il y en a qui sont satisfaits et d'autres quand même qui sont embêtés et qui sont intéressés qu'il y ait autre chose qui existe. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils changent forcément, mais c'est bon à savoir. Alors, donc, les méthodes de planification familiale naturelle, je me suis surtout intéressée aux méthodes d'auto-observation. Donc, il y a en France... sont très développées les méthodes Bennings et symptothermiques. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Ou vous ne connaissez pas du tout? Non. Faudra que je fasse un... Je vais vous donner des documents pour que vous puissiez chercher un petit peu. Je ne vais pas vraiment faire un grand topo là-dessus. C'est basé sur les... C'est-à-dire que la femme... n'est pas fertile en permanence. Hein, il y a des cycles chaque mois, il y a des phases différentes, des variations hormonales selon la période du cycle. Et il y a à un moment donné, un jour, une ovulation et quelques jours par mois de fertilité. Donc c'est là, ça s'appelle la fenêtre fertile. L'homme est fertile en permanence. La femme seulement de la puberté jusqu'à la ménopause et seulement quelques jours par mois dans chaque cycle. C'est un peu basé là-dessus, ces méthodes naturelles de planification. Et donc, pourquoi auto-observation? C'est-à-dire que c'est pas basé sur un calcul de jours, c'est basé sur la les sensations de la femme qui va apprendre à repérer à quel moment elle est fertile. Voilà. Donc, les sensations à la vulve, voilà, y a un changement, à un moment donné, il y a un changement dans les sensations. Et à partir du moment où il y a tout d'un coup plus un changement dans l'autre sens, quelque chose qui devient sec, bah, la veille, c'était l'ovulation. Voilà, il y a un certain nombre de règles. Voilà, je vous donne un petit peu en gros. Je pourrais y revenir si vous voulez. Je vous donnerai des documents. Puis surtout, c'est important d'être bien formé. Donc il y a des sessions de formation de différentes associations pour être accompagné avec moniteur, surtout au départ.
Tu veux que je dise ce que je disais aux femmes, parce que évidemment, oui. On n'est pas toujours scientifique, donc il faut dire une chose assez simple. Parce que le problème, c'est qu'on va faire passer une connaissance scientifique à des gens qui n'ont jamais rien fait, jamais fait d'études. Donc, moi je le disais, bon c'était un peu bête, quoi, mais que c'était comme les saisons. Donc, il y avait une saison comme le printemps, qui était la période fertile, mais qui avait quatre temps. Donc, les temps de la menstruation, ensuite un temps infertile, ensuite la période fertile, et ensuite un temps carrément infertile. Et alors, ces quatre temps, on pourrait dire que la période de la menstruation, c'est la période des labourages, donc c'est un peu l'automne. L'hiver, c'est ce qu'est la première période. Ensuite, le printemps, la période fertile, et l'été, là, il n'y a plus, absolument plus, de raison d'avoir un enfant étant donné qu'on a enfanté. Donc quatre temps qui sont deux temps où on voit quelque chose, la menstruation c'est facile, la période fertile c'est facile, il y a la glaire, il y a l'association, etc. Et puis les deux autres temps sont muets. Donc ce sont les périodes fertiles, disons, qui vont délimiter les périodes infertiles. C'est-à-dire quand il n'y aura plus de sensation, voilà, on tombe dans la période infertile. À la fin des règles, avec des règles évidemment assez strictes parce que bon, il y a des précisions à donner, mais en gros c'est ça, c'est quatre temps. Alors je disais c'est comme la valse, quatre temps, et là chaque cycle on peut le schématiser un petit peu en gros, hein, pour parler à un temps précis, et voilà. Donc, je laisse.
Mais c'est bien que tu rappelles les saisons, parce que je l'ai dans mon PowerPoint, je ne l'ai pas mis. J'essaie d'être très neutre.
Oui.
Même mon état de zèse me dit pas trop des saisons, tout ça, ça fait. Mais c'est ça peut une manière de redécouvrir le corps dans sa beauté, dans sa nature, comme il est fait. Pourquoi le. C'est quelque chose d'assez un peu triste à dénaturer, à prendre des hormones pour bloquer quelque chose qui est le. On est femme entièrement dans tout ce qu'on est, avec aussi la fertilité, comme l'homme aussi est homme dans sa fertilité, avec tout ce qui est dans sa fertilité. Et donc c'est René Cochard en discutant, il disait effectivement on parle pas vraiment de méthode au même titre que méthode contraceptive, on choisit la méthode naturelle parce que voilà, mais c'est pour les couples, c'est un moyen de l'adapter, de vivre sa sexualité au rythme de sa fertilité, donc avec les saisons du corps.
Et ça c'est très intéressant pour l'homme. L'homme découvre pourquoi sa femme a des sortes d'humeur tellement étonnantes. Les hommes sont stables, et puis ils avaient l'expérience d'une femme qui les aimait tous les jours, c'était leur mère, et ils comprennent pas que leur femme, dans un moment, les envoie balader, puis quelque temps, là il n'y a que lui qui existe, et même ils se demandent pourquoi. Et quand ils découvrent que c'est de cette dimension biologique qu'elle a, et qui fait qu'il y a des hauts et des bas, et que ces variations hormonales vont un tout petit peu conditionner ces réactions, ils découvrent beaucoup de choses. Et alors, c'est vrai que, c'est un peu brutal, mais un amant ne peut pas supporter que la femme sait, et qu'elle ait des hauts et des bas. Parce qu'il faut, comme disait un monsieur que j'aime pas tellement, un humoriste, la femme, c'est comme les patates, il faut que ça saute. Ben non, je veux dire, un mari ne pourra pas dire ça. Un mari dira, moi j'attends que ma femme, je supporterai qu'elle est ainsi. Ça, c'est conjugal. Tandis que, bon, quand on veut s'éclater, etc., ben là, il vaut mieux prendre la pilule. Mais la pilule a un revers. C'est que très souvent, elle refroidit complètement la femme. Il n'y a plus de libido, et là, on a un peu inquiétant quand on voit une fille de la dent. Parce que la pilule met la femme comme en ménopause.
Ouais. C'est un taux d'hormones constant, plus élevé. Comme en période infertile après l'ovulation. En fait, la femme se retrouve en permanence comme ayant déjà ovulé, mais pendant des mois, des années. C'est marrant que tu parles des hommes parce que moi, au départ, j'avais fait ma recherche. Interviewant que des femmes. Et puis il y a eu un homme qui a voulu répondre. Donc j'ai reçu une interview d'un homme. J'avais demandé à une monitrice qui a demandé à certains couples. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ah oui, il faut quand même que je demande aux hommes parce que c'est super intéressant. Et en fait, j'ai du coup eu. Enfin, je vais vous expliquer un peu la méthode de recherche, comment j'ai fait, mais. J'ai eu quelques réponses d'hommes qui ont choisi les méthodes naturelles. Et finalement, au niveau de la contrainte, ils n'en parlaient pas. Ou ils avaient beaucoup plus de choses positives, parfois, que la femme. Dans un même couple, ils le vivent beaucoup mieux que la femme.
Parce qu'ils sont détachés. Moi, j'ai découvert ça, ce qui fait que je faisais toujours venir les mains. Pas qu'ils aient maintenant l'impression que les femmes s'arrangent entre elles, c'est la petite histoire des bonnes femmes, mais il fallait, parce que pour finir, c'est un problème de couple, et que nous on n'a plus de choses à faire, c'est de s'en retirer, et que le couple s'entende bien. Et là, c'est passionnant, parce qu'on voit qu'il y a une découverte mutuelle de tas de choses qu'on n'avait jamais vues. Et ça, elles le disent souvent aussi.
C'est vrai que dans les différences hommes-femmes, j'en parle pas dans mon topo, mais je trouve ça intéressant. On voit les hommes beaucoup plus comparés. Enfin, c'est intéressant. Hein. Les femmes parlent vraiment que de pourquoi elles ont choisi la méthode naturelle. Les hommes comparent pourquoi ils n'ont pas choisi le préservatif, pourquoi ils n'ont pas choisi ça, etc. Enfin, tous, hein, c'est assez flagrant. Enfin, c'est des choses qui sont intéressantes à voir.
Et ça, pour l'exercice de d'appliquer ça, ça sera très intéressant parce que tu verras qu'il y a des constantes dans ce que disent les gens. Mais ce que tu as fait, tu le vois, donc ça c'est passionnant. Ouais.
Alors, parce que j'en suis. Alors, donc, je me suis intéressée du coup à quels étaient les critères de choix des couples qui choisissent les méthodes naturelles. C'est pas très connu. Il y en a qui choisissent ça. Pourquoi? Et j'ai comparé à d'autres couples qui ont choisi des méthodes contraceptives habituelles. Que ces couples-là, je les ai surtout rencontrés en consultation lors de mes remplacements de médecine générale. Donc, un certain nombre de femmes. J'ai eu 15 femmes dans. Qui ont choisi contraception et trois réponses de conjoints. J'ai eu beaucoup plus de mal à avoir des réponses des conjoints dans ce groupe-là. Et 14 réponses de femmes et 4 conjoints qui ont choisi les méthodes naturelles. Et là, pour avoir des interviews de ces gens-là, je ne les ai pas rencontrés en consultation, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai fait appel aux associations qui existent en France. Donc Billings, il y a deux associations Billings, Colombes France et Centre Bénédictins France, et puis l'association du Clair Amour et Famille qui eux proposent la méthode symptothermique. J'explique, ouais, ce que c'est. Billing, c'est vraiment basé que sur les sensations, comme elle expliquait la glaire. On sait comment est le début et la fin de la phase fertile. Et symptothermique, on associe la température, parce qu'après une ovulation, il y a une augmentation de 3 dixièmes de degrés de la température du corps chez la femme. Et on sait qu'elle a eu une ovulation et on attend 3 jours. Après cette hausse, on attend un plateau de 3 jours pour être sûr avant de pouvoir avoir des unions. Donc c'est, et avec cette méthode symptothermique, on associe donc le signe de la glaire en début de, pour découvrir le début de la période fertile et la température pour la fin de la période fertile. Est-ce que ça va?
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
Oui, donc dans mon travail, après, j'ai essayé de voir quoi les résultats de l'étude pouvaient avoir un intérêt pour le généraliste, parce que je présente ce travail dans le cadre de la médecine générale.
À des généralistes. C'est bon, ouais, la suite.
Donc, j'ai utilisé une méthode de recherche un peu nouvelle qui est surtout utilisée en sociologie. C'est une méthode qualitative. Donc, j'ai pas fait des grands questionnaires. C'est un petit échantillon. Il y a 36 interviews. Ça s'appelle la méthode de l'évocation hiérarchisée. Je vais vous montrer un exemple. Et puis, donc, chacun devait répondre à une question. Alors, c'était mis en place par ça a été découvert par Anna Maria De Rosa, c'est une Italienne, entre 1990 et 2003. C'est assez récent. Alors, quand j'en ai parlé à ma fac, ils ne connaissaient pas. Par René Cochard, il m'a proposé en discutant, je lui ai dit qu'est-ce que je voulais faire et tout ça, et puis un peu après il m'a dit bah, tiens, peut-être ça pourrait convenir. Effectivement, c'est une méthode qui convient assez bien au sujet, parce que je vais vous expliquer. Donc c'est une méthode qui a son intérêt pour éviter l'action de l'enquêteur. Ni induire une réponse, ni empêcher une réponse. Souvent, les questionnaires, on dit « Est-ce que vous êtes d'accord avec ci, ça, ça ? Oui, non, un peu, pas beaucoup. » Beaucoup. Et en fait, on confirme une hypothèse de l'enquêteur. Donc souvent, on induit quelque chose. Ou parfois aussi dans les entretiens, d'avoir quelqu'un en face, c'est pas toujours évident, ça peut aussi induire... On parle de la désirabilité sociale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne va pas forcément oser dire. Bon, là, les personnes sont... Enfin, j'étais en face d'elles, ensemble, mais elles étaient seules avec leurs feuilles et elles écrivaient les mots qui leur venaient. Et chacun a dû répondre à la question. Vous avez choisi une méthode de régulation des naissances. Qu'est-ce qui a participé à votre choix?
Il y a 4 étapes dans cette méthode. Vous ne voyez peut-être pas grand-chose. Je vais vous faire passer le travail.
En gros, peut-être qu'on voit un peu mieux ici. Non? Bon, je vais faire passer. Ça donne une idée de ce que les gens ont écrit. Ça a été recopié. C'est pas les écritures. Donc, chacun écrivait avec... qu'est-ce qui leur venait à l'esprit en mettant donc le mot, le trait et l'ordre d'apparition à l'esprit. Ça permettait pour nous de savoir quel est le schéma, la représentation à l'esprit, qu'est-ce qui vient en premier à l'esprit des gens, du pourquoi j'ai choisi cette méthode-là. Ensuite, il y avait en deuxième étape des connexions supplémentaires pour donner plus de sens. S'il y avait besoin, expliciter pourquoi j'ai écrit ce mot-là. En troisième étape, la valeur, si elle est positive, négative ou neutre, ce qui évite une interprétation au corps de l'enquêteur, parce que une grossesse, ça peut être positif ou négatif selon, selon la personne. Enfin, y a différentes choses qui... Ça évite encore d'interpréter à tort. Et en dernière étape, qu'est-ce qui est écrire l'ordre d'importance pour soi. Et c'était intéressant parce que parfois les choses qui venaient en premier étaient les moins importantes et celles qui étaient les plus importantes venaient à la fin. C'était selon les entretiens, c'était intéressant.
Et les questions, tu les posais les unes après les autres?
Ils avaient un mode d'emploi.
Ah oui.
Avec un exemple d'un sportif. Et puis je leur disais un peu toutes les questions au départ et puis après je reprenais une à une. Une fois qu'ils avaient fini chaque étape, je reprenais.
Mais c'était dans la même séance?
Oui, ah, oui. Il fallait compter 20 minutes, 30 minutes. Selon ce que les gens avaient à dire. Enfin plus. Et donc avec tout ça, j'ai recueilli 478 idées. Enfin, mots ou phrases, groupe de mots. Que j'ai analysé. Alors, ce qui peut être un biais, c'est de l'avoir fait seul. En fait. Enfin, j'ai été aidée par des amis, etc. Mais il n'y a pas eu un autre. Souvent, dans une étude, il y a deux personnes indépendantes qui vont essayer aussi de classer en domaine, en thème, les résultats. Bon, je l'ai fait seule. Ça fait partie des
limites. Tu l'as fait sur l'ordinateur ou tu l'as fait, tu l'as classé?
J'ai écrit à la main les mots. Ah, oui. J'ai essayé de les mettre sur papier, tout ce qui venait dans chaque groupe. Et essayer de... Ensuite, de classer donc par thème, ensuite par domaine, un peu plus généraux, et puis il y avait des sous-thèmes. Donc j'avais 5 domaines, 20 thèmes et 17 sous-thèmes. Globalement, les deux groupes réunis. Et après, j'ai comparé, j'ai fait une analyse un peu détaillée de tout dans la thèse, mais là, je vais vous présenter juste les comparaisons, qu'est-ce qui ressort dans les résultats.
C'est ça, tu l'as fait dans ton tableau. C'est dans les tableaux que tu as fait. Celles qui prenaient le plus leur appréciation et celles qui ne la prenaient pas et leur appréciation.
J'ai pas vraiment fait de tableau. Si j'ai fait un tableau,
oui, un tableau
dedans.
Là.
Ouais. Oui, là il y a un tableau récapitulatif des domaines.
Voilà. Voilà. Celui-là?
Ouais. Des domaines et des thèmes dans chaque selon les groupes. Enfin, je vais regarder le tableau. Je vais le présenter. Donc là, c'est ce que je vais expliquer avec les différentes étapes, hein, parce que c'est pas très lisible.
C'est très intéressant. Mais...
C'est ça, hein? Non, c'est pas. Ah, c'est où? Ok. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, deux groupes de personnes de 22 à 47 ans, deux groupes à peu près... Mais en fait, ce qu'il y avait d'embêtant aussi dans les biais, c'est que c'est pas des groupes homogènes. Hein, au niveau, j'ai aussi demandé les métiers, les niveaux d'études, c'était pas vraiment comparable, ce qui est logique parce que c'est pas le même recrutement. Hein, j'ai dû faire appel à des associations et sinon c'était un peu tout venant de ma consultation en médecine. Mais malgré ces biais, on peut arriver à trouver.
C'est intéressant.
Ouais, ouais. Bon,
justement, ça permet d'un peu éparpiller. C'est bon, c'est... Parce que dans notre patientèle.
J'ai pas mis le tableau des... Ah, il n'y est plus. Ah, bah oui, parce que j'ai fait des modifications. C'est pas grave. Je vais pas bien. Donc je vais vous détailler. Il y a 5 thèmes, 5 domaines. Domaine relationnel, domaine existentiel, domaine du corps, domaine de l'exigence et de généralité que je ne détaille pas. Ça va ?
On apprend beaucoup.
Donc, domaine relationnel, ce qui sort le vraiment en premier dans la comparaison, c'est dans le groupe PNF. PNF, c'est méthode planification naturelle familiale. On voit vraiment l'application des deux conjoints. Ça, c'est une constante. Beaucoup de termes relatifs à la qualité de la relation. Bon, j'en détaille pas trop, mais il y a tout ce qui touche au don de soi, ouverture à l'autre. Bon, c'est des choses qui revenaient souvent. D'un autre côté, dans les couples qui choisissent la contraception, l'homme était, pour les femmes, l'homme était important. C'était pas lui qui avait vraiment part au choix. Hein. C'était d'abord en premier lieu le médecin, la famille et l'entourage. Hein. Statistiquement, dans les réponses, il n'y avait pas vraiment. Le conjoint était important dans la relation. Mais au niveau du choix de contraceptif, je n'avais pas forcément eu ni interrogé, ni. Peut-être que ça l'était, mais en tout cas, ça ne s'est pas paru sur le papier. Donc, c'est quelque chose d'important. Et dans les trois réponses d'hommes, les trois disaient c'est le choix de ma femme. M'accompagne. Et y en a un qui disait aucune contrainte pour moi, mais il a mis que c'était négatif. Donc c'est quelque chose d'important, ce qui peut penser qu'il était prêt à participer davantage dans ce choix avec sa compagne. Et celui-là est le seul à avoir nommé l'enfant, la fécondité, la fertilité comme positive. Non, s'il ne s'a pas été nommé dans ce groupe contraception. Voilà, au niveau de la discussion, j'ai fait une petite recherche de la littérature qui montrait effectivement dans les études de Dr. Klein et Van de Vus, il y avait trois quarts des couples interrogés dans l'étude de Van de Vus qui disaient que les méthodes naturelles avaient participé à renforcer leur lien conjugal. Ouais. Et puis très peu qui disaient que c'était difficile. Enfin, peut-être 5% qui disaient que c'était difficile. C'est de 2003, cette étude. Le docteur Klam, il ressortait que aussi les effets positifs pour le couple et une réduction d'attitude dominante dans le couple, que ce soit de la femme sur l'homme ou de l'homme sur la femme. Je trouve ça intéressant.
C'est intéressant parce qu'on voit que le couple, en fait, se focalise sur ce problème de féminité et plus sur je t'aime, tu n'aimes pas, je t'aime pas, je n'aime pas, etc. C'est plus une relation passionnelle, sentimentale, etc. Mais ils ont une optique, c'est la fécondité. Qu'on va différer ou qu'on désire, parce que très souvent, le fait d'arrêter la pilule et de commencer une méthode naturelle, ils se disent tout à coup, mais les deux, dans le fond, parce que ça laisse repartir le désir d'enfant chez la femme, et puis tout à coup, ça devient impérieux, et ils inversent la motivation. Et ça arrive très souvent. Et ils ne vont pas le dire aux médecins, ils ne vont pas le dire aux statisticiens, mais ils ont inversé leur motivation. C'est plus je ne veux pas d'enfant, je ne veux surtout pas d'enfant, ça serait une catastrophe, c'est tout à coup. Et alors, du coup, ils en ont tout de suite.
Voilà, ce que dans mes idées, en voyant un peu ce constat-là, c'est que pour un médecin généraliste, c'est important de pouvoir accueillir l'homme et la femme dans une demande de contraception ou dans une demande de régulation des naissances. C'est ce qui est préconisé, en fait, dans les recommandations. Mais quand... Enfin, c'est vrai que moi, personnellement, je ne le fais pas.
Insiste dessus. Ah. Ta thèse, tu insistes. Ouais, je suis désolée, mais je suis derrière.
Les recommandations. Oui, il faut que je sente bien. Mais ce que je vous ai décrit au départ, c'est à la femme et à son conjoint. C'était écrit.
C'est ça.
Hein.
il faudrait, faut réfléchir comment, dans les filles, de le faire. Quoi. Souvent, c'est les femmes qui viennent nous voir, nous avons donné une pilule, et puis ben, on prescrit, et puis c'est tout. Et on se pose pas toutes les questions derrière, du coup, quoi. Voilà. Donc là, je nommais de prendre en compte le bienfait que peut avoir une méthode de régulation des naissances. Soit pas juste en termes d'efficacité, éviter de ne pas avoir d'enfant, mais de voir en quoi cette méthode peut avoir un bienfait pour l'enfant aussi. Enfin, c'est ça aussi le but aussi. Voilà. Comme autre résultat, la fécondité est perçue de manière positive dans chez les couples qui utilisent la méthode naturelle. Aussi l'enfant, parfois les femmes écrivent que le bébé c'est un cadeau. Voilà, c'est assez un peu partout. Dans tous les entretiens, on le retrouve. Et la fiabilité est peu évoquée dans 3 entretiens et où les femmes écrivent bien que c'est conditionné à la rigueur. À la rigueur l'application des règles de la méthode.
Moi, je me demandais, est-ce que dans la vie d'un couple, un jeune couple, en effet, est un couple qui n'a pas encore d'enfants ou très peu, et justement un couple qui commence déjà à être plus âgé avec des enfants 4, 5, élevés. Est-ce que du coup, ils peuvent avoir un changement de regard sur la méthode de contraception ou au contraire, la fin de voir un peu. Alors, soit en disant, bon, bah, maintenant, on a été une méthode et on va essayer une autre. Est-ce que pour certains, ça va être du coup d'utiliser la contraception par la pilule, par exemple, quand on va s'inscrire dans les contraintes et il y a a priori moins de risques aussi dans la tête de beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez pu constater ça dans vos interviews, en fonction de l'âge des couples?
En fait, je n'ai pas pu faire de statistiques parce que j'ai vraiment un petit échantillon. Donc, je n'ai eu que des femmes et des couples qui l'utilisaient actuellement. Donc, peut-être qu'elle pourra plus répondre, Florence. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il y a une étude qui montre que ça peut être les méthodes naturelles peuvent être vécues de manière positive ou négative selon la période de la vie. Et c'est aussi un chemin de vie, hein, plus qu'une méthode. Et bon, j'en connais qui l'utilisent, qui sont plus âgés, pour qui c'est plus compliqué parce qu'il faudrait qu'ils deviennent plus âgés, ça serait plus compliqué. Mais en même temps, la nature fait qu'on est beaucoup moins fertile.
Après 35 ans. La nature qui fait qu'on a plus de désir de l'autre dans la période où on n'a pas de fertilité.
Tout à fait.
Donc, il y a quand même, on va un peu aussi contre la nature, mais de manière consciente, c'est évolué, mais on va aussi contre.
En fait, c'est plus complexe parce qu'en fait, moi je les ai suivis, j'ai suivi des couples jusqu'à ce que la femme ne puisse plus avoir d'enfants. C'est vrai que certains couples souffrent beaucoup. Parce que bon, voilà, ils ont réalisé, ils ont 4 enfants, et après, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend beaucoup des gens. Ça dépend de la nature de leur rapport, ça dépend de. En médecine, on ne peut jamais généraliser. Mais il y a quand même un fait, c'est que quand la femme a réalisé son congé, c'est-à-dire le rêve de sa vie, d'avoir eu, par exemple, si j'interrogeais toutes les femmes ici, il n'y en a pas une qui aurait le même projet. Il y en a qui veulent un enfant, il y en a deux qui en ont peut-être deux, il y en aura un petit peu plus. Et on ne peut pas faire de moyenne, mais moi j'ai eu des femmes qui allaient jusqu'à 12. Mais pas beaucoup. Et tant qu'elles n'avaient pas leurs 12 enfants, elles souffraient. Elles sentaient que la famille n'était pas terminée. Et d'autres, c'est beaucoup moins. D'autres, vous direz, mais alors celles qui n'en ont que deux, qu'est-ce qu'elles font? Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout de deux, le désir d'enfant, qui est extrêmement impétueux, c'est quelque chose, une femme qui veut un enfant,
elle est capable de le faire avec n'importe qui. C'est absolument incroyable, mais je me souviens d'une amie qui était gynécologue et qui me disait, mais je ne comprends pas, j'ai conseillé à une patiente de ne plus avoir d'enfants, et je lui dis, surtout, c'est pas le moment d'en avoir un, et bien elle revient 3 mois après, elle était enceinte, donc je l'ai engueulée, mais j'ai dit, c'est... Elle-même, elle avait oublié que ce désir est très impétueux. Et donc après, une fois que vous avez eu vos 5 enfants, si vous en oubliez 5, ça va. Ça va, les relations s'apaisent. À moins que le couple soit toujours bon enfant, je veux dire, les portraits un peu du négret. Mais je veux dire, et ça c'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser. Mais en général, pour les couples, il n'y a plus de problème. Et s'il y a un petit dernier à 42 ans, il est accepté. Si, bon, parce que pour finir, bon, il y a des choses où on ne s'explique pas comme ça. En réalité, on sait, un peu comme pour la pilule, on se dit, mais comment elles ont fait pour avoir ce bébé? C'est improbable que c'est plus la voie. Avec des méthodes naturelles. Mais ce n'est pas arrivé souvent. Quand même, 80% des femmes ont un cycle régulier, sont très bien. Sans médecin, sans rien du tout. Rien qu'en lisant un article. Ou un bouquin qui parle de ça. Donc, les femmes, en fait, elles ont une jugeote. Et là, il y a eu donc un scandale terrible avec les troisième, quatrième génération. Beaucoup de femmes, disons, ont arrêté de prendre ces pilules et ont fait ce qu'elles ont voulu. Et une journaliste venimeuse a dit évidemment, étant donné qu'elles ont lâché la pilule, il y a eu beaucoup plus d'abus. Et là, il y a eu une riposte foudroyante. Nous disons, quelqu'un qui a suivi les choses, en 2013, il y a eu 10 000 avortements de moins que les autres années. Ce qui prouve que quand les femmes sont laissées sans pilule, elles sont plus prudentes et plus avisées que quand elles l'apprennent. C'est impressionnant. Donc les statistiques démentaient ce que disait cette journaliste, qui a publié son truc, mais qui n'a pas. Elle a dit, je suis désolée. C'est très impressionnant. Donc, parfois, il y a moins de grossesses avec une femme qui ne prend pas de contraception que parce que les femmes sont plus connues.
Il faut peut-être qu'on comprenne aussi qu'il y a responsabilisation à deux, alors que la contraception de pilule, c'est vraiment... C'est que la femme qui s'en occupe, qui va se mettre ça dans son corps. Et,
et ça,
et on oublie, effectivement, voilà, toute la relation à deux, de connaissance de... C'est assez dur.
Donc, il faut faire plus confiance dans la... Et c'est pour ça que ça, c'est intéressant. Parce qu'on voit l'opinion des gens. C'est-à-dire, c'est une information remontante. Ce sont des gens qui parlent. Ce ne sont plus les médecins qui imposent. Et, ou les gens cliniques, évidemment, qui là imposent en disant c'est une nécessité pour vous êtes obligé de prendre la pilule. Non, ils sont obligés de dire
Et ce que j'ai pas dit effectivement par rapport à l'implication, j'ai parlé des hommes dont la femme utilise la contraception, mais les femmes, il y en a beaucoup qui sont frustrées en fait de la non-implication du mari. Ça, je l'ai pas dit. En fait, je l'ai écrit, je crois. Mais
tu le liras, tu vas la lire ta thèse.
Mais j'ai que 10 minutes.
C'est pour ça qu'il faut la lire. Il faut la lire, parce que ça, tu suivras bien ton idée.
Oui. Mais j'étais vraiment très...
Très réduite.
Très réduite, hein. Mais c'est normal. Ouais, donc... Et aussi dans les différences, il y en avait un qui disait, avec cette méthode-là, il n'y a pas d'effet secondaire, alors que si. Mais il n'avait pas il n'avait pas suffisamment de connaissances de ce que prenait sa femme. Elle prenait un anneau vaginal.
Ah oui.
Vous pensez qu'il n'y avait pas d'effet secondaire alors qu'il y a des hormones comme
elle peut avoir une fluide.
Donc la fécondité, la fiabilité peut évoquer. C'est-à-dire que ce n'est plus le facteur principal.
Ah,
c'est pas parce que c'est efficace qu'il le choisit, même si l'efficacité est la même que plus ou moins à peu près que la pilule. C'est pas parce que c'est efficace qu'ils choisissent ça. S'ils veulent vraiment le truc efficace, bah, y a plein de choses. Enfin,
Madame Sarkozy, qui a dit, comment ça s'appelle déjà, Carla, le meilleur moyen pour ne pas avoir d'enfants, pas avoir de relation. C'est un sens.
Mais c'est ça qui est...
Et un enfant désiré, et ça peut poser des problèmes aussi.
Tout à fait. Tout à fait, on est un peu dans une société actuellement où...
On veut tout contrôler.
Voilà, oui. C'était pas le moment, donc moi j'en parle un peu avec les patientes aussi, je le vois. Quand elles demandent la pilule, je leur dis, est-ce que vous avez aussi pensé que s'il y avait un bébé qui arrive, parce que ça peut arriver. Et souvent elles se retrouvent très démunies quand ça arrive, parce qu'elles sont pas... imaginer que ça puisse arriver.
C'est ça.
Et en fait, ils n'en parlent pas non plus. Aucun ne parle d'une éventualité d'une grossesse. Ils ont la peur d'une grossesse non désirée. C'est un petit peu ça qui sous-tend la contraception. Et donc, le besoin que ce soit efficace, que la méthode soit efficace, et la sensation de sécurité quand ils pensent que la méthode est efficace. C'est très important, ça fait partie des choses les plus importantes pour les couples, cet aspect-là. Donc c'est des choses un peu assez différentes.
Je crois que moi j'aime beaucoup tes bébés dans le tableau, tu nous en as parlé, mais
ouais.
Où tu parles de différents points de vue, celles qui prennent la vue, elles ont un point de vue, celles qui ne prennent pas la vue, qui ont vécu la régulation, elles ont un autre point de vue, mais qui est plus développé, je trouve. L'aspect religieux.
Ça, je vais le détailler en fait. Là je fais point par point.
Ah oui.
Je suis encore dans le domaine relationnel. Mais effectivement, peut-être. Je donne tout, à peu près. Hein, ça marche pas. Comme ça.
Quand tu redétailles,
voilà.
Oui, d'accord, est-ce que je vois. Mais comme j'avais pas la tête, je n'ai pas vu.
C'est-à-dire que.
Ah oui, très bon.
Dans les méthodes naturelles, la fertilité est préservée, donc ça suppose aussi une motivation des deux conjoints et une rigueur dans l'application des règles. Mais après, chaque couple le fait à sa manière. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent absolument pas d'enfants, là ils vont être très très rigoureux, puis d'autres qui veulent juste espacer et puis. Ils appliquent, mais là c'est pas grave s'il y en a un
qui.
Voilà, aussi. Il y en avait une qui disait risque et elle l'associait avec le plaisir et puis la peur. Voilà. C'était intéressant parce que c'était assez concret, quoi. Parce que en gros. En Allemagne, on a des taux au niveau de l'efficacité théorique d'1%, voire moins. C'est, en gros, l'efficacité théorique des méthodes naturelles, c'est moins de 2%. Donc, c'est l'équivalent de la pilule.
98%.
Et en pratique, c'est plus de l'ordre de 7 ou 8%. Selon que. Ça dépend de la motivation aussi et de l'apprentissage. S'il y a une bonne information, s'il y a le couple a été bien suivi au départ. Mais c'est la pilule, c'est 8% en pratique. Et encore, oui. Ouais.
Tellement de façons de rater la chose.
Ouais. Et donc, dans le côté intéressant aussi de ces méthodes-là, c'est que ça peut aider les couples à concevoir. Et ça, je m'en sers beaucoup plus en consultation, finalement. J'ai beaucoup de couples en difficulté. Et de savoir à quel moment la femme entre une période fertile, quels sont les meilleurs moments pour avoir des unions, pour avoir un enfant, ça aide vraiment le couple à prendre confiance. Parce que ça, c'est aussi ce qu'on ne dit pas, mais il y a de plus en plus de couples qui sont en difficulté et avec la pilule, etc., on retarde de plus en plus le moment de commencer à penser à avoir un enfant. Et avec l'âge, la femme est moins fertile. Voilà. Donc c'est marrant parce qu'à la fac, en première année de médecine, une médecin nous l'a dit, une prof nous a dit, attention mesdames, vous êtes toutes jeunes, mais les études sont longues et sachez que ce serait beaucoup moins fertile à la fin de vos études, en gros. Hein.
Mais c'est catastrophique, parce que la fertilité humaine est très faible. Parce que pour une femme jeune, entre 20 et 25 ans, avec un mari, quel qu'il soit, même s'il a 60 ans, c'est pas grave, c'est mais on n'a que quand même une chance sur 4, 25% de chance d'avoir. C'est pour ça que...
Ouais.
Ouais. Donc, sur 1000 couples, vous n'aurez pas beaucoup de couples qui auront un enfant au bout de la première année.
Ouais.
Il n'y en aurait que 420. Ça ne veut pas dire que les 580 qui restent sont infertiles. Il faut qu'ils attendent un tout petit peu plus longtemps. Donc on calculait qu'en 2 ans, il fallait qu'à peu près un couple normal, déjà bien planté, puisse avoir son enfant dans les 2 ans. Et on intervenait avant comme pour 2 ans.
Ouais.
Mais au bout de 2 ans, vous n'avez que 800 couples qui ont un enfant. Donc il faut attendre. Et ce n'est qu'au bout de 5 ans qu'il faut dire qu'il y a une stérilité. Mais maintenant, à la deuxième consultation, on vous donne toutes les petites plaquettes, etc., pour aller vous faire une échographie. Ce qui est catastrophique, parce que parfois la femme n'est pas prête. Et c'est une raison pour laquelle elle diffère la grossesse, sans le vouloir, mais inconsciemment, elle la diffère. Et moi, j'ai beaucoup de patients avec la méthode naturelle qui venaient pour des enfants, qui avaient déjà fait les fécondations, qui avaient raté. Et qui venait, mais je sentais qu'elle n'était pas prête. Donc j'attendais. Et puis, il y en a une qui m'a dit ça. Au bout d'un an et demi, 2 ans, elle est arrivée. Elle me disait, mais vous me donnez n'importe quoi. Vous ne me donnez pas des choses assez fortes, etc. Mais moi, j'attendais patiemment que ça commence à aller mieux là-haut. Et quand je commençais à me dire, il faut que je lui donne un bon traitement, elle est venue pour me dire, bon, ben, je suis enceinte. Et après, elle est venue me présenter l'enfant. Parce que je ne faisais pas les accouchements. C'était à l'hôpital ici. Et quand elle m'a présenté un beau petit garçon mignon comme tout, elle m'a dit, ah, heureusement que je ne l'ai pas eu avant. J'étais dans le même. Je me suis dit, tiens, j'avais quand même une bien. Pourtant, à un moment, je me disais, mais il faudrait quand même que j'attende. Donc là, il y a le fait d'attendre. Si vous faites une fécondation in vitro, comme elle n'était pas stérile, bref, c'est qu'elle avait eu normalement son bébé, vous lui mettez dans les bras un enfant pour lequel elle n'est pas prête. Et puis pour finir, elle ne veut pas. C'est dramatique.
Voir plusieurs enfants.
Oui. Des jumeaux. Plusieurs enfants. Et
puis... En plus, oui.
Mais c'est vrai que les études montrent que ces méthodes naturelles ont autant d'efficacité que la fécondation in vitro. C'est un peu dommage.
Ça réduit le coût, ouais. Parce qu'il y a tellement de blocages de conception dus à des couples qui fonctionnent mal, indépendamment de la relation sexuelle, et que forcément c'est pas terrible sur ce point-là, même s'il y a des pratiques régulières, mais qui n'est pas harmonieuse.
C'est ça.
C'est fou, hein, c'est comme on passe à côté de tout ça. Et au niveau de l'éducation des jeunes, moi je suis des années 90, hein, c'était catastrophique.
Vraiment au niveau des jeunes, là, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Il y a des choses qui existent, hein, des programmes d'éducation sexuelle et affective.
Oui, affective, c'est bien de dire affective, oui. Parce que l'éducation sexuelle, ça on en a, mais crue et. Enfin, il y en avait à l'époque.
Moi, j'étais écoutée, en 5e, les enfants, ils en savent plus.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire remettre dans l'ordre
oui, le sentiment avant,
l'amour, la personne, le respect de soi, la connaissance de son corps, tout ça. C'est...
Et que c'est un travail à deux.
Ce serait intéressant de faire.
Une aumônerie de jeunes à Saint-Pierre-de-Montmartre.
Ah oui.
En Beauce aussi. Non, mais je voudrais aussi faire intervenir.
Est-ce qu'il y a des programmes comme. Oui.
Une jeune infirmière pour leur parler de ces questions-là.
Il y a des programmes comme Teen Star qui se fait dans les collèges de 11 à 14 ans.
Le cyclo chaud. J'en fais partie, oui. Une gynécologue qui est une juive convertie en fait, qui était religieuse et qui est allée très longtemps au Pakistan, une maternité, donc elle a travaillé, mais une autorité aux États-Unis en fait, c'est une très très bonne gynéco. Et les Philips qui lui connaissaient bien lui ont demandé de faire un programme pour les jeunes. Donc elle a fait ça, Teen Star, parce que Teen c'est. Fortune, etc. Donc, tous les noms en ligne, c'est l'âge entre 13 ans et 20 ans où on est intéressé par ces problèmes et qu'il faut les former. Et Star, parce que le titre n'est pas très bon en France, mais ça fait un petit peu
de
mais Star, c'est qu'il faut leur redonner confiance et leur donner ce qu'ils besoin. Donc, c'est un programme où on développe toutes les capacités humaines et puis on donne une notion normale de la sexualité en s'appuyant sur le livre. Et ça, je vous donnerai les. Il y a des moniteurs qui vont partout. Qui vont partout pour faire des sessions, ça dure une semaine. Et là, on va. Très bien fait. Très bien. Ils sont très optimistes. Mais je ne veux pas t'interrompre.
Non, c'est bien. Non, c'est bien. C'est, au contraire, c'est intéressant de. Oui, allez, comme ça. N'hésitez pas s'il y a des questions.
Je crois qu'on a remis la sexualité sur un plan de consommation.
Ouais.
Et depuis longtemps, hein, depuis les années 70. Mm. C'est pas. Enfin, avant, les gens avaient peur de faire ça, d'autres traumatismes,
oui.
Mais on est passé de certains traumatismes à d'autres types de dérives qui portent d'autres.
Il y avoir des voix qui s'élèvent de partout et qui ne sont pas forcément des gens qui ont la foi ou tout ça, mais on voit qu'il y a une réaction et qu'il faut absolument faire quelque chose.
Il y a plus que dans les médias on parle de sexualité que de cadence, combien de fois par semaine, combien de fois par mois, c'est complètement fou. Et quand une sexualité épanouie, c'est peut-être une fois par jour, je ne sais pas. Même si la femme n'en veut pas du tout et qu'elle est violée par son mari, par exemple. Enfin, bon. Non mais enfin, ça peut aller jusqu'à ce stade-là. Donc on n'en parle que comme ça. Je ne sais pas, moi je suis plus dans les écoles aussi fréquemment, je ne sais pas comment ils en parlent dans les établissements, si même c'est ce qui est véhiculé dans les médias, dans les télés, c'est la cadence.
C'est très court, c'est très décadent.
C'est la cadence, le nombre de fois.
Et puis ça fait un peu romantique, quoi. La Rome décadente, où on faisait n'importe quoi. Et
privilégier la qualité.
Oui.
Il vaut mieux une fois très bien que 10 000 fois nul, quoi.
Ouais.
Enfin, c'est clair, quoi.
Mais c'est la rencontre, en fait.
Bah, oui.
Le but, c'est l'union, la communion de personnes qui s'aiment et pas de prendre à l'autre.
Et je pense que les contraceptions soi-disant faciles, entre guillemets, parce que on fait basculer vers cette idée. Enfin, bon, avant, il y avait des dérives complètes avant aussi, hein, avant la contraception. Et puis, c'était pas triste non plus. Pas idéalisé de passer non plus, hein.
Non. Mais dans ce sens-là, j'en parle pas dans ma thèse, hein, mais le pape Jean-Paul II a vraiment écrit dans les années 80 des.
Il n'a pas voulu l'écrire parce qu'il savait que tout le monde lui tombait
dessus. Oui, les audiences.
Ce sont des audiences,
voilà.
C'est-à-dire il faisait un petit exposé sur la théologie du corps. On a appelé ça la théologie du corps. Et en fait, il revient aux origines. Adam et Ève dans le paradis terrestre. C'est magnifique.
C'est magnifique.
Ça, il faudrait. C'est le côté de l'amour. Ouais. C'est tout ça. Donc, on reprend pied là, parce qu'on se dit, ah bon, oui, au fond, il reste des traces de ça en nous, mais on ne savait même plus. Quoi. Et c'est très, très beau. Et alors, il y a un institut qui s'est créé à Lyon, je crois, qui s'appelle l'Institut Jean-Paul II, ou je ne sais pas quoi.
C'est sur toi, Rome, mais c'est une branche de. De celle de Rome.
C'est ça, alors ouais. Rome s'y est branché, donc c'est ça. Il y avait dit au courant, c'est bien.
Oui, Yves Semaine, oui.
Avec Yves Semaine, c'est magnifique. Il y a tout sur Internet, si ça vous intéresse. Vous pouvez les retrouver. Et c'est. Enfin là, ils ont fait un petit colloque en décembre, donc c'est tout récent. Et il y a une quinzaine d'interventions. Mm-hmm. Et très, très belle.
D'accord.
Très beau.
Ouais.
Je te l'intéresse.
Oui.
Ouais. Ça redonne le moral, quoi.
Oui, c'est vrai que ça.
Il y a du costaud. Il faut le mûrir. Moi, j'ai essayé de faire une conférence. On m'a demandé à Strasbourg de faire un truc là-dessus. J'ai lancé ça et tout le monde était perdu. Parce que
oui,
il faut le mettre en langage courant, quoi. Je veux dire, parce que c'est assez costaud.
Oui, oui.
Mais c'est magnifique. Ça vaudrait la peine. Ça redonne le moral, quoi.
Je vais. Ah. On a encore combien de temps?
Tu as pas parlé du domaine existentiel.
Combien?
Dizaine de minutes,
d'accord. Bon, je vais. Oh. Voilà, domaine relationnel. Bon, là, je vais aller vite, c'est ce que je vous ai dit. L'apprentissage se fait avec d'autres couples, en fait, dans ces méthodes naturelles en général, de couple à couple. Et puis, pour les méthodes contraceptives, c'est donc l'information délivrée par le médecin, la famille, l'entourage. Domaine existentiel, c'est quelque chose qui est très développé chez les couples qui utilisent les méthodes naturelles, mais pas dans les couples qui utilisent la contraception. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un domaine qui existe, mais il n'y a pas de lien avec leur choix de contraception.
C'est drôle parce que j'ai fait un petit travail. Mais sur mes patients.
Ouais.
Quand j'avais le temps, je faisais un petit questionnaire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Bon, peut-être que c'était dirigé, c'était imparfait. Mais je vois exactement la même chose.
Ouais.
Il y avait celle qui n'avait jamais pris la pilule. Toutes me parlaient de Dieu. Elle m'a dit, je suis catholique, je ne peux plus supporter. Moi, je l'ai prise 3 jours, je l'ai
ouais.
Ou on me l'a donnée, je ne l'ai pas prise. Ou alors, je ne l'ai pas achetée. Ou alors, je l'ai achetée, mais je l'ai mis dans un tiroir. Et toutes celles-là me disaient, parce que vous comprenez, c'est un problème de conscience. Je ne peux plus, je ne peux pas faire ça. Et puis, celle qui l'avait prise, elle, ben, c'était plus le même langage. C'est trop, je reprends la même chose que toi.
Ouais. Donc j'ai détaillé un petit peu dans ces thèmes. Il y a le thème de la vie spirituelle, et j'en parle de la foi, la religion, de l'éthique. D'autres qui parlent des fruits de bien-être spirituel. De l'amour, de la joie, de l'émerveillement, du bonheur, la liberté. Voilà, c'est beaucoup de mots comme ça. Ce n'est pas des mots qu'on trouve de l'autre côté. En fait.
C'est ça.
et la cohérence de vie personnelle et conjugale. Voilà, unité de vie, harmonie. Enfin.
Là, dans ce petit truc, il y a un petit détail moi, qui m'avait beaucoup frappé. C'est une jeune fille qui n'était pas ma patiente, elle accompagnait une parente. Et on parlait un peu, on a parlé. Elle m'a dit, vous voyez, c'est quand même curieux. Tant que j'ai pris la pilule pour mon acné, je la supporte très bien. Aucun problème. Quand je l'ai prise pour l'autre raison, j'ai commencé à avoir mal à la tête, les jambes lourdes, j'avais mal au ventre, etc. C'est la même pilule, le même dosage, le même c'était bien comme ça. Et après, je me suis dit, mais la conscience interne, il y a toute une pathologie qui est due à un problème de conscience. Et ces femmes à qui moi j'ai vu très souvent, elles avaient pris 3 ou 4 ou 5 spécialités parce que la première, elle l'a supportée par la seconde, la troisième, vous comprenez, je ne sais pas quoi, les rafugiers, un machin. Et donc, il fallait attendre d'avoir la pilule miraculeuse qui leur convient. Et moi, je me demande si ce n'est pas des problèmes de conscience qui interviennent.
Oui, c'est possible, parce que cette femme qui demandait, il n'y a pas quelque chose de naturel, elle espérait à quelque chose. Et elle avait essayé plein de trucs.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est vrai.
Donc, la conscience peut entraîner une pathologie. Et il suffit d'enlever cette chose qui. Comme étranger, quoi, qui la blesse, tout serait intéressant. Très très intéressant sur le plan psychologique. C'est très intéressant. Moi j'étais, comme j'étais un peu médecin mécanicien, j'étais étonnée que trop des problèmes de conscience puissent donner des problèmes de santé. Qu'après j'ai dû le dire.
Et bah, c'est très lié parce que prendre une pilule, ça bloque toute une part de la féminité, en fait, de la biologie de la femme. Enfin, c'est pas rien.
Oui, ça.
C'est pas rien. Alors ça a des conséquences, vraiment des risques de phlébite, des risques d'accident vasculaire, etc. Mais ça bloque aussi toute la féminité, quoi. Enfin, c'est pas rien. Parce que, on est femme et on est homme dans chaque cellule de notre corps. Hein. Il y a les chromosomes spécifiques dans chaque cellule. Quoi.
On reconnaît, on met une cellule sous le microscope.
Voilà, on sait que c'est voilà, quelle que soit la cellule. Enfin, et donc bloquer la fertilité, c'est pas rien pour une femme.
Il y a une médecin, c'est difficile de le retrouver maintenant, elle s'appelait Starin Kinch, qui est une canadienne. Et je sais pas si elle, je crois qu'elle était protestante. Et elle avait écrit un livre qui s'appelait Les 5 dimensions de la sexualité chez la femme. Et j'étais un peu étonnée, je me disais où est-ce qu'elle est allée chercher les 5 dimensions. Et elle disait, la première dimension, c'est la biologie, c'est le cycle. La deuxième, c'est la relation hétérosexuelle. La troisième, c'est la grossesse. La quatrième, c'est l'accouchement. Et la cinquième, c'est allaiter son enfant. Parce que le sein, c'est pas seulement fait pour vendre des voitures ou des ordinateurs. C'est pas un truc publicitaire. Ça sert à nourrir un enfant. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'enfant. Donc, la première dimension, c'est le rythme.
Ouais. Et ça les gens parlent beaucoup du rythme. Il y a la notion de la temporalité, je l'ai pas mis. Mais dans le domaine du corps,
à ce sujet-là, vous avez remarqué que dans les pilules, ça pourrait être 28 jours, des pilules ou 30 jours. Hein. Or, il y a beaucoup de pilules qui font que 21 cachets et 7 jours de simulation de règles. Finalement, ce ne sont pas des règles parce que la femme est perturbée à l'idée de ne plus avoir ses règles. Ce ne sont pas des vraies règles. Mais c'est voilà, et on les laisse. Enfin, je ne sais pas comment c'est les pilules d'avant, je ne sais plus, mais la plupart des pilules, il n'y avait que 21 cachets.
Oui.
Et pas 28. Alors, quel était l'intérêt de ce.
Ben c'est ça, avant c'était
vraiment psychologique.
Et les femmes ne supportaient pas.
À l'idée de ne plus avoir beaucoup de règles, elles n'étaient plus des femmes. Alors elles aimaient mieux avoir des fausses règles plutôt que pas de règles du tout.
Tout à fait.
Et rien que ça aurait dû interpeller. Quoi.
Et ça, c'est marrant parce que dans les femmes qui prennent la pilule, il y en a qui parlent de régulation. On nous ment, quoi. On dit on va réguler votre cycle alors qu'on on le supprime.
Ah, ouais. Et ça, c'est complètement fou. C'est tellement lié les hormones dans le corps avec tout le reste que je savais. Et soi-disant pour la libération de la femme.
Ouais.
C'est plutôt la libération de l'homme qui du coup peut faire ce qu'il veut quand il veut.
Ouais. Enfin, mais en même temps, il se trouve
face à une femme avec moins de désir.
Voilà, s'il a une femme qui a qui a plus sa féminité dans, enfin qui est bloquée dans sa féminité, il se retrouve perdant aussi, parfait, entre guillemets. Enfin, c'est... Oui, il y a un homme qui dit ça, je voulais pas que ma femme prenne un médicament parce que
je pense qu'elle est pas malade. Beaucoup d'hommes sont aussi sensibles que les femmes.
Tout à fait. Moi, quand je parle à des hommes, ils sont embêtés que leur femme parfois prenne la pilule. Ouais. Mais je mets dans le domaine du camp. En fait, je l'ai pas trop détaillé. C'est marrant parce que quand on en parle, c'est un petit peu à l'idée ce qui viendrait le plus, mais c'est pas tellement le côté naturel pour lequel les. Enfin, naturel en tant que sans danger. Je sais pas comment dire. Au niveau de... Oui. Par contre, enfin, je vais y revenir à ça. Bon, voilà, ça, on en a parlé. Peur ou expérience des effets secondaires. Ça, c'est très, très important chez les femmes et les couples qui utilisent... Surtout les femmes qui utilisent les contraceptions. Celles qui utilisent la pilule, en général, sont satisfaites. Elles sont plutôt jeunes. Mais celles qui ont utilisé d'autres choses, préservatifs, c'est parce qu'elles ont essayé tout le reste et elles s'en sortent pas. Celles qui utilisent le stérilet, c'est au cuivre, souvent elles ne veulent pas d'hormones parce qu'elles ont eu des effets secondaires ou des problèmes de santé avec. Donc ça, c'est une part très importante dans leur choix de ces femmes. Celles qui utilisent les méthodes naturelles, ça vient, le fait que ce soit naturel, qu'il y ait un respect du corps, de la nature, que ce soit sans danger. Ça vient, mais finalement, c'est pas le plus important non plus pour elle. C'est beaucoup plus des facteurs relationnels, finalement, que ce côté juste, c'est pour pas avoir de problèmes de santé. Enfin, ils en ont découvert. Il y en a une qui disait, c'est intéressant, elle donne un témoignage. Au départ, elle trouvait que, bon, elle a commencé à 42 ans. Elle disait, elle l'avait pris pour mincir parce qu'elle trouvait que la pilule la faisait grossir. Et puis petit à petit, elle a découvert tout le côté, justement. Elle a retrouvé son désir. Elle a vécu ça comme une libération. Et donc, ce qui était plus important, finalement, c'était beaucoup plus cette libération, cette joie se retrouver que le fait qu'elle était moins grosse, quoi. Mais c'est...
Ça, tu l'as mis dans ta thèse ?
Dans ma thèse, oui. Dans ma thèse, c'est complet. J'ai tout mis, tous les témoignages, tous les trucs. Mais... Et donc, par contre, ce qui est assez important, c'est la connaissance de soi, de son corps, connaissance de l'autre. Ça, c'est très développé. L'émerveillement par rapport à son corps, la féminité retrouvée, la sexualité plus épanouie. Ça, c'est des choses qu'on retrouve chez les couples qui utilisent des méthodes naturelles. Bon. Voilà, en gros, pour un médecin généraliste, ça peut être intéressant de pouvoir proposer quelque chose d'autre que la contraception pour... Il y a certains couples qui sont demandeurs, quand même. Voilà, c'est ça que je mettais dans cette image. L'exigence, parce que ça, c'est un domaine important. C'est une méthode qui est exigeante, ça, c'est un petit peu dans chaque entretien. Parfois considérée comme contraignante, dans 4 entretiens, c'est assez évoqué, les périodes d'abstinence et les observations quotidiennes pour la femme. Mais c'est toujours mis en balance avec le positif retrouvé. Mais dans les couples qui choisissent la contraception, est aussi beaucoup évoqué la contrainte, en fait. Hein. C'est pas la contrainte... Il y a une femme qui disait la contraception, c'est une contrainte au niveau psychologique, physique. Elle voudrait trouver une méthode qui n'a aucune contrainte. Enfin, voilà. Mais bon.
Mais il y a l'implant sous-coutané, hein, si elle peut.
Oui, mais il y a les effets secondaires.
Oui,
bah, c'est pour ça les femmes choisissent ce stérilet pour éviter d'oublier les prises de pilules, etc. Mais elle avait essayé l'implant. Non, elle n'avait pas, parce qu'elle avait peur d'un corps étranger sous le bras. Ouais. Voilà. Et, mais dans le groupe de ceux qui choisissent la contraception, est beaucoup évoqué le fait que ce soit facile. Facilité. Facilité de prise, facilité, pas besoin de penser à... Si on prend ça, c'est pour pas penser à prendre les comprimés tous les jours. Et ça fait partie des choses les plus importantes, en fait. La facilité.
Mais je crois qu'il ne faut pas le cacher, d'ailleurs, hein, quand, que c'est exigeant.
Ouais.
Moi, je pense qu'il ne faut pas le cacher aux gens qui veulent faire un état naturel. La pilule est beaucoup plus facile.
Et en même temps, quand on voit ce que disent les femmes là-dessus, il y en a une qui parlait de la pilule, mais elle avait essayé plein de choses. Et d'ailleurs, elle est enceinte, mais elle a gardé l'enfant. Elle était sous pilule. Elle était enceinte, c'est marrant. Au moment où j'ai fait l'entretien, elle ne le savait pas encore. Oui. Oui, oui. Mais elle, en même temps, on voyait, c'est la seule qui a parlé de responsabilisation quant à la contraception. Il n'y a aucune qui a parlé de responsabilité, c'est la seule qui a parlé de responsabilisation. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'est-à-dire qu'elle a été jusqu'au bout de sa responsabilité en gardant l'enfant. Hein, c'est intéressant. Et on voyait qu'elle avait cheminé, elle avait essayé plein de choses et elle s'en sortait pas, quoi. Elle était sur le point de mettre un stérilet, alors qu'elle n'avait pas d'enfant et qu'elle en voulait. Là, je parle de. Dans les études, on parle de. Donc, qu'il y a l'exigence, c'est exigeant, mais ça peut être vécu positivement, négativement, selon les périodes de la vie. Au début, c'est parfois plus difficile, et avec le temps, avec le couple. Enfin, ça devient un chemin de vie. Il y en a une qui disait. Elle parlait d'une promesse. Et qu'il y a une perspective de bonheur qu'elle n'imaginait pas dans ce choix. Et qu'elle parlait de bénir, de se souvenir, ça porte les souvenirs du couple et de la famille, des enfants qui sont venus, qui sont venus avec joie. Enfin, c'est assez intéressant. Donc c'est plus voilà. Dans un troisième biais que j'ai évoqué, c'est que j'ai quand même eu 7 moniteurs sur 18 entretiens. Donc ça peut favoriser des résultats plus positifs et des choses qui sont un petit peu qui se répètent aussi parce qu'ils ont l'habitude de présenter les méthodes à d'autres. C'est... En même temps, j'ai les domaines et les thèmes dans tous les autres aussi. Donc, c'est-à-dire que sur les 18 entretiens que j'ai eus des couples qui utilisent les méthodes naturelles, il y en a 7 qui eux-mêmes étaient formateurs d'autres personnes. Donc, voilà. Oui.
Comme j'étais médecin, je voyais tous les cas difficiles. Je voyais les cas les plus. Bon, c'était une spécialité, donc c'était très bien. Et donc, il y en a qui. On aurait dit qu'ils avaient pris des contacts qui leur ont mis en la tête.
Ouais.
Donc là, c'était intéressant parce qu'il fallait arriver à trouver comment résoudre le problème. Il fallait que j'invente des traitements. Enfin, c'était génial. Je faisais un peu de. Parce qu'évidemment, il ne fallait pas donner d'hormones.
Ouais.
Il fallait arriver à les présenter. Et les aider, parce que bon, déjà, ils étaient moniteurs, mais en plus.
Ils s'en sortaient pas. Oui, ça arrive. Tout le monde, il y a pour tout. Ouais, ouais. Voilà, donc dans ma conclusion, c'est une alternative possible, la planification familiale naturelle. C'est quelque chose qui. Et il y a des applications
pour les professionnels de santé. Et ce que j'ai évoqué, c'est que ça serait intéressant d'avoir plus d'entretiens avec des hommes pour une prochaine recherche. Parce qu'il y en a peu, mais c'est très intéressant.
C'est que tu gardes les coordonnées et que tu retrouves ces gens dans 3 ans.
Ouais.
Parce que 6 mois, c'est pas assez. Il faut voir un tout petit peu s'il n'y a pas d'usure, s'il n'y a pas des habitudes, et puis des manques de prudence parfois, des incohérences et tout. Et puis de savoir s'ils ont le même.
Le même regard.
Ah,
J'ai essayé d'avoir, j'ai autant de nouveaux et de anciens couples hein, sur les résultats. J'en ai 9 qui ont fait moins de 18 mois et 9 plusieurs années.
Donc, ça donne.
Oui. Il y en a qui débutaient, il y en a qui n'avaient pas encore commencé. Et donc, enfin voilà, on avait un peu les raisons de ceux qui débutent, pourquoi ils choisissent.
Celles qui avaient pris un bulle, elles avaient commencé à faire.
Il y en a aussi, ouais. Qui ont utilisé plusieurs années, 15 ans la pilule, et puis qui s'étaient mis récemment aux méthodes naturelles. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Et bon courage, parce que le milieu est rude.
Oui.
Mais ce qui est miraculeux, c'est qu'elle a réussi à passer entre les coups. Elle passe sa thèse dans quelques jours, il faut encore beaucoup prier pour elle.
Oui.
Mais c'est vraiment formidable qu'elle ait été acceptée, que ça les a intéressés.
Oui, le sujet a été accepté.
Ouais. Ouais. Bah, c'était pas toujours. J'avais d'autres. Au départ, en même temps, ça m'a. J'ai Mathieu, j'ai mûri. aussi, hein, ça a été un chemin pour moi aussi de déjà découvrir ces méthodes que je connaissais pas. De voir dans ma pratique aussi, de travailler en tant que généraliste, voir qu'est-ce qui était possible de dire, qu'est-ce de faire et tout ça avec les gens. C'était intéressant de voir le retour, la vraie vie des gens aussi.
Pour ta pratique, ouais. Ça va être très, très intéressant.
Ouais.
Tu vas voir que tu vas enrichir ça et après tu écriras.
Je pense que c'est une approche très qualitative et en même temps dans le quantitatif, où dans le quantitatif on oublie les identités de chaque personne,
ouais.
Finalement. Alors on va dire, ah bah oui, mais c'est pas assez scientifique parce que c'est trop qualitatif, trop cas par cas. Mais en fait, le qualitatif est essentiel parce qu'il se passe des choses tellement folles sur des cas particuliers,
ouais.
Des choses tellement particulières, que traiter ça en termes statistiques, ça aveugle tout le ressort de chaque humain et de chaque couple.
Ouais.
Qui a de faire quelque chose d'exceptionnel.
Et
c'est ça, pas seulement sur la conception, sur plein d'autres soins en médecine. Hein.
Formidable, ben c'est passionnant. Vraiment.
Merci. Il y a des questions?
Qu'est-ce que c'est la planification naturelle familiale?
Alors, c'est. Disons que c'est pour. C'est un terme un petit peu barbare, hein, c'est vrai que ça fait bizarre. C'est ces méthodes naturelles qui permettent de différer des grossesses, de réguler. C'est-à-dire que ça permet de choisir quel moment on va avoir une union en fonction de la fertilité qu'on a reconnue chez la période fertile chez la femme. Donc c'est dans nos sociétés c'est important, mais aussi dans d'autres sociétés où ils sont enfin parfois dans d'autres pays où il y a besoin aussi de, on parle de paternité responsable, parentalité responsable, c'est pouvoir élever les enfants. Et pas forcément bon d'en avoir beaucoup, beaucoup si on ne peut pas les nourrir.
C'est mal étudié, mais le désir d'enfant est très mal étudié chez la femme. Et pourtant, c'est très intéressant. Parfois, il se révèle quand la femme est très jeune. Parfois, c'est au moment de liberté, tout simplement. Parfois, bien après. Parfois, à 20 ans, 23 ans, et tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après un enfant, le deuxième enfant, où il s'effondre. Et donc, il ne faut pas s'en faire. Parce que la femme est épuisée, parce que voilà, il faut se consacrer à cet enfant. pas son problème. Parce que là, il peut y avoir un problème. Voilà, il y a quelqu'un qui voudrait faire la méthode Beans toute sa vie. Ça serait pas très bon, quoi, je veux dire, parce qu'elle n'aurait pas d'enfant du tout. C'est pas tout à fait.
Oui.
C'est pas tout à fait certain sur le plan moral que ça soit bon. Mais je pense qu'il y a des raisons graves, parfois, de différer une grossesse. Et donc, en général, moi je le voyais, c'est l'épuisement de la femme. Tant que la femme n'a pas envie, ce désir un peu fou de l'enfant suivant, il vaut mieux qu'elle soit belle. Il vaut mieux qu'elle soit belle. Ouais, je connais quelqu'un assez proche qui me disait, jusqu'ici, il n'était même pas question, ouais, j'en ai eu 8, il n'était même pas question d'avoir le suivant. Je n'en pouvais plus. Et j'y pensais même pas. C'était pas le problème. Mais maintenant, oui. Je pense que là, sur le fond, je vais mettre très bien. Et je refuserais quelque chose à Dieu si j'avais pas le suivant. Parce qu'elle en voulait beaucoup. C'est très intéressant. Le problème,
il est là. Il y a un problème.
C'est que c'est pas. De même, moi, je ne le proposais jamais à des filles jeunes. C'est bien qu'elles se connaissent.
Voilà, c'est ça.
Mais je ne le proposais pas, parce que ça serait leur dire, bon, ben, dans les mois de n'importe qui. Or, là, justement, il y a une responsabilité. Moi, je leur disais toujours, tu peux pas mettre vous ne pouvez pas mettre un enfant à vous s'il n'y a pas un père stable et un toit. Il faut que cet enfant ait un berceau, tu ne peux pas l'avoir dans le berceau. Donc, et là, c'est catastrophique, parce qu'on pousse les jeunes, à la consommation, parce qu'il faut fourguer la pilule, c'est une fille jeune que c'est rentable. Parce qu'elle va la prendre 30 ans, c'est monstrueux, démolit la jeunesse d'une manière effroyable.
Ça, c'est la politique depuis 40 ans. Les jeunes qui sont arrivés à l'âge de la sexualité dans les années 80-90, c'était déjà incroyable.
J'avais été invitée dans une école secrétaire d'enseignement, une école religieuse. On m'avait demandé d'aller parler à des cinquièmes. Et j'avais découvert un filière.
Tu veux peut-être venir.
C'est des élèves de cinquième, j'avais dit à la religieuse, écoutez, qu'elle m'envoie un peu les questions, parce que je ne veux pas parler de choses qui ne les intéressent pas, donc qu'elle m'envoie les questions. Elle m'a envoyé à côté, dans une grande enveloppe, il y avait 25 feuilles. Quand j'ai commencé à lire, j'avais les cheveux qui tombaient, d'horreur. J'étais dans une fosse à purin. Ces enfants étaient complètement obnubilés par le sexe, et uniquement le sexe, et l'amour de ses mains. C'était c'était orange mécanique, quoi. C'était quelque chose de métaurique. Mais comment ces enfants si jeunes sont déjà complètement obnubilés par ce problème et par la sexualité de leurs parents et par tout ça, je me suis dit, c'est leur problème. Donc moi j'y avais été et je leur avais présenté un film que j'aimais beaucoup d'Edelman qui était Le premier jour de la vie, qui leur parlait du développement d'un enfant dans le sein de sa mère avec des belles photos et un accouchement à la fin. Et après Jésus, il y en a une qui avait dit à ses parents, on nous a tout dit, c'est-à-dire qu'elle ne savait rien jusque là.
Oui,
parce qu'en plus, c'est ça, il y a une surconsommation sexuelle, mais avec une méconnaissance.
Elle s'amuse pas.
Et des tabous. On est dans une société hyper tabou sur la sexualité. Il y a hyper tabou sur la sexualité avec une hyper consommation. Mais il y a autant de tabous finalement que dans des sociétés moins éduquées, d'autres cultures ou autres, et qui en fait ont l'enseignement entre les femmes. Il n'y a plus la mère qui enseigne à sa fille.
On empêche cette relation-là.
Tu es toute seule dans.
Et nous, ce qu'on nous dit en médecine, c'est il faut que ce soit le médecin généraliste qui en parle et tout ça, hors de la mère.
Vraiment, une tante ou quelqu'un, et une autre femme qui viendrait dire des petites choses de la vie naturelle. On a tout ce qu'on veut dans de manière technique, les livres, les bouquins, mais finalement, peut-être moi je l'ai vu comme ça dans ma famille, peut-être dans d'autres familles c'est moins tabou, mais l'éducation sexuelle par transmission orale et confiance réciproque entre femmes ou autres, je ne sais pas si ça existe encore.
On l'emmène à la gynéco, c'est ça en fait, actuellement. Oui, c'est ça. On l'emmène chez le médecin généraliste pour lui faire prescrire la pilule, qui lui explique tout ça. Et...
Alors vous l'avez donné pour me présenter les filles, justement. Je me souviens d'une pousse qui était venue, elle m'aimait bien, donc, mais enfin, je suis un peu catastrophée parce que je vais dire des trucs, parce qu'il ne sera pas d'accord. Donc je vais perdre une patiente. Je viens avec une copine en plus. Donc, tout est naturel, la grossesse, l'enfant, les cinq dimensions de la sexualité. Et alors, ils sont partis. Et ça s'est très bien terminé parce que j'ai reçu une boîte de caramel de la part de la maman. Ouf, j'étais soulagée parce que la mère était contente. Donc, la fille était contente. Et comme moi, ne discours pas, il ne faut pas craindre de le faire, de le faire dans le
ouais.
Et c'est bon parce que tu as un terrain qui est assez. Et les gens que tu as sont différents.
Oui, c'est assez varié.
Il y a souvent des jeunes hommes adolescents, ce serait très important. Et un petit jeune couple qui aurait 15-16 ans, qui sont très jeunes, qui viendraient à deux,
ouais.
Le garçon et la fille. Parce qu'en général, c'est
l'histoire. Les hommes, c'est
en général. Voilà, c'est complètement dissocié. C'est le problème de la femme.
Ouais.
Sauf quand il y a un préservatif. Mais c'est le problème de la femme encore, quand il y a des accidents de préservatif.
Mm-hmm.
Donc, c'est violent. Je vois ça comme quelque chose de très.
Ouais. Et ça, je ne sais pas encore comment faire dans le concrètement. Enfin, faut que j'ai à travailler ça. Enfin, faire appel, demander quand la femme vient, parce que c'est pas l'homme qui vient pour ces questions-là. Est-ce que vous pouvez venir avec votre conjoint ?
Vraiment intérêt.
Ouais.
Moi, je viens d'une petite qui est devenue d'avoir un enfant. Elle était toute grise dehors. Je n'arrivais pas à la guérir. Elle était très, très tendue. Je lui dis, bon, c'est l'accouchement, elle était crevée, etc. Je lui dis, écoutez, j'aimerais voir votre mari, parce que c'est bon que vous compreniez les choses tous les deux. Il va prendre une partie du discours, il va prendre l'autre et vous le profiterez après. Ah non, non, mon mari, j'ai un peu insisté, mais à la fin, il est venu. C'était un homme très pondéré, c'était un Libanais, qui était un peu plus âgé qu'elle. Et j'ai carrément demandé au Libanais, mais écoutez, est-ce que ça vous perturbe beaucoup d'avoir une période de continence pendant 2 mois ? Il faut donner des dates quand même.
Oui.
Il m'a dit, bah, écoutez, depuis qu'elle a son enfant, ma femme a beaucoup changé. Elle est plus douce, elle est plus douce, elle a expliqué une série de choses très jolies. Et de la voir s'occuper de mon fils, je suis comblée. Donc ça ne fait absolument rien attendre. Et la fille, quand elle est partie, elle m'a sauté au cou. Je ne m'y attendais pas. Donc elle m'a embrassée parce qu'elle n'attendait pas ça de son mari. Et donc ça, il y a eu quelque chose là qui est passé. Qui était absolument indispensable pour leur couple. Comme quoi, c'est très bon de demander au mari.
Ouais.
Et parfois, on est étonné de la nature des garçons.
Ouais.
Et moi, parfois, c'était les garçons qui m'envoyaient les filles. Mmh. Futur fiancé, je l'ai lu encore là, il n'y a pas longtemps, parce que j'ai fait une émission. Et il faudrait que je le parle. Enfin, c'est pas tout à fait parfait ce que j'ai fait, mais une fille. Belle, magnifique, dès que faire la campagne. Je ne veux pas prendre des lunes, je veux faire une donne. D'accord. Et elle est venue avec son fiancé. Son fiancé, grand, magnifique, très, très sympa. Il était en 6e année de médecine. Et elle me dit, mais en fait, c'est lui qui m'a poussé à venir vous voir. Et lui m'a dit, mais vous croyez pour nous, on saute sur toutes les femmes comme ça, je veux dire, pour moi, c'est absolument normal que je la respecte. Donc, j'attends, je frappe à la porte, et si elle dit oui, d'accord. Alors, et elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit, bon, on a commencé à se comprendre, on a commencé à mieux se connaître, etc. Et c'était ça qui était le plus intéressant. Et les hommes nous aident beaucoup. Parce que nous, parfois, on a un peu la trouille sur je vais sortir, mais dans la rue, il va m'envoyer à vous. Et pas du tout. C'est très bon, t'as fait un travail intéressant. Eux, ils vont peut-être te critiquer un peu, ils vont te confiner, mais.
Ça dépend qui sera dans le jeu.
Oui,
c'est des gens qui sont ouverts à ça ou des gens qui sont vraiment anti.
ton directeur de thèse ait accepté et qu'il ait tenu
compte. Il a accepté, puis il m'a aidé justement à ce que ça passe bien, à ce que je parle à d'autres généralistes. Il m'a dit j'ai dû retravailler des choses effectivement pour que ça reste vraiment.
Voilà.
C'est scientifique, quoi. C'est scientifique, ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont lu toute la thèse. Il y a, normalement, j'ai 8 membres dans le jury.
8 membres ?
Oui, bon, c'est un peu particulier. C'est tout. On est 8 à passer, ou 7, 7 ou 8 à passer, en une après-midi. Et donc, le jury, c'est les autres directeurs de thèse. Ça va être très varié. Bon, j'en connais 2-3 déjà que je trouve sympa, donc bah, après on verra après.
J'ai une question, c'est pour le.
Ouais.
Il y a une phlébite si on prend l'anneau vaginal.
Oui, on peut aussi, oui. L'anneau vaginal, en fait, le principe, c'est aussi une délivrance d'hormones. Et c'est aussi des hormones de troisième génération, d'ailleurs.
Oui, mais en plus, c'est l'horreur, ce truc. Ouais. Je ne comprends pas comment ils peuvent avoir que le rôle de mettre encore ces trucs-là. Enfin, Bayer a déjà.
Les implants aussi, c'est troisième génération.
La peau Bayer a déjà cédé pas mal de choses, et puis ils ont déjà payé beaucoup d'indemnités.
Oui.
Ça va peut-être les faire réussir. Parce qu'ils ont des procès sur. Ils ont. Je crois qu'ils ont 400 procès.
Ouais,
mais ils les diluent, parce que les uns font les autres, parce que sinon ils sont submergés.
Merci beaucoup.
Et donc, compte sur nous pendant ces 9 jours-là.
Oui.
Oui.
Désolée. Hein.